Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Jean, chapitre 11, Évangile selon Jean, chapitre 11. Et aujourd'hui, mon texte se trouve du verset 17 jusqu'au verset 27. Et je voudrais vous parler de Jésus-Christ, la résurrection et la vie. On peut se demander pourquoi dire les deux, puisque les deux veulent dire la même chose. Je crois que le sens est que Jésus-Christ, qui est la résurrection, est aussi la vie qui donne la résurrection. Et nous voyons ça surtout en ce qui concerne la mort de Lazare, quelqu'un que Jésus aimait, ainsi que Marie et Marthe. Donc nous savons alors qu'ils étaient des élus que le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ bien avant la fondation du monde pour qui le Seigneur Jésus est venu maintenant donner sa vie. Ayant appris la mort de Lazare de la part de Marthe et Marie, tout d'abord qu'il était malade. Mais nous avons vu la dernière fois que Christ ne se pressait pas d'aller vite pour intervenir. Et ainsi, Lazare est mort avant que Christ et ses disciples n'arrivent à Béthanie. Alors, ça n'a pas tourné comme Marthe et Marie auraient voulu. Mais nous savons comme toute chose dans la vie, tout se passe exactement selon la volonté de Dieu. Et Dieu ne demande pas notre conseil pour agir comme il agit. Et le Seigneur Jésus étant Dieu dans la chair, même dans la chair, il continuait à diriger toute chose par la puissance de sa parole. Donc ici, dans le verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Si nous voyons un peu l'histoire de ce qui s'est passé, nous pouvons savoir alors, comme c'est l'habitude des Juifs, d'enterrer le même jour. Donc le même jour que Lazare est mort, ils l'ont enterré. Et voilà, 4 jours plus tard, le Seigneur Jésus arrive. Et Lazare était déjà dans le sépulcre depuis 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, c'était une mesure romaine qu'ils utilisaient, la distance d'un stade était de quelques 182 à 190 mètres de longueur. Donc c'est comme ça, il mesurait ici. Donc 15 stades devaient être environ 3 kilomètres de Jérusalem, pas loin. Donc Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Nous savons, comme la coutume dans beaucoup de pays, quand il y a la mort, il y a des gens qui viennent visiter et s'asseoir avec la famille en deuil. Donc, Marie avait ce rôle de s'asseoir tandis que les gens venaient la consoler. Nous savons aussi, comme c'était l'habitude de Marthe, elle s'inquiétait de beaucoup de choses. Nous rappelons la fois que Christ était en train de les visiter et Marthe était debout en train de travailler, faire les préparations et elle a critiqué Marie devant le Seigneur, disant, mais pourquoi Marie ne se lève pas pour l'aider? Et le Seigneur Jésus a dit que c'est Marie qui a choisi la meilleure part et s'asseoir au pied du Christ et d'apprendre de lui, tandis que Marie était préoccupée. C'était sa nature. Mais ayant dit cela, comme nous avons vu au début de ce chapitre, que le Seigneur Jésus, dans le verset 5, aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Souvent, nous imaginons que l'amour de Christ est conditionné sur notre manière de vivre. Ce n'est pas le cas. Si nous sommes en lui, nous sommes aimés depuis l'éternité. Et cet amour ne change point. Et nous devons admettre que nous sommes tous de nature différente. D'autres peut-être sont plus paisibles et d'autres plus chauds, mais cela ne change pas l'amour de Christ envers qui que ce soit. Si nous sommes un de ceux-là que le Père aime depuis l'éternité et a donné à son Fils pour être notre Sauveur, notre Rédempteur, notre justificateur, notre justice est en lui, c'est en son œuvre, et non pas en nous. Donc, voilà la situation. Que Marie se tenait assise à la maison, mais Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et qui peut la blâmer? Combien de fois nos pensées tournent autour des mêmes doutes au sujet de ce qui se passe dans nos vies. Et on imagine que si tel ou tel aurait été le cas, alors tel ou tel ne serait pas ce que c'est. Et en cela, nous devons comprendre aussi que rien ne se passe par hasard, et si nous voulons vraiment savoir ce qui est la volonté de Dieu, il suffit de regarder où nous sommes maintenant. Nous ne pouvons pas savoir une minute de maintenant de ce qui est la volonté de Dieu pour nous, mais en regardant en arrière, nous pouvons comprendre que tout ce qui s'est passé exactement selon la volonté de Dieu. Mais combien de fois nous avons de mêmes pensées que Marthe, et nous exprimons ces pensées devant le Seigneur dans les doutes. Si tu eusses été ici, la réalité, c'est qu'il n'a pas voulu être là jusqu'au moment où il est venu. Donc, on ne peut pas douter. Pourtant, au moins, Marthe ici ne cache rien. Elle exprime ses pensées les plus profondes devant le Seigneur. Et je remercie le Seigneur que c'est comme ça. Même si nous ne formulons pas ces paroles devant le Seigneur, il connaît nos cœurs. Et combien de fois ces pensées traversent nos cœurs? Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors voilà le point sur lequel nous voyons ici qu'elle avait, quelle que soit son incrédulité, elle avait en elle cette assurance dans le Seigneur Jésus, quoique les autres ne croyaient pas en lui. Mais voilà, elle, une femme qui savait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, tout ce qu'il demandait de Dieu, Dieu l'accordait. Et nous devons savoir que tel est le rôle de Christ en tant que médiateur. Il est le médiateur de ceux pour qui il est venu sauver. Et même dans nos prières, si nous écoute, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Christ. Nous ne savons pas prier comme nous devons, mais tout ce que le Fils demande de son Père l'écoute. C'est pour pourquoi nous avons cette assurance même dans le salut, que ce n'est pas ce que nous demandons, mais ce que Christ demande à son Père, qu'il écoute. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus prie, il prie pour ce que le Père lui a donné, et non pas d'autres. C'est pour ceux-là qu'il prie. Et c'est pour ça que nous savons aussi qu'il reçoit tout ce qu'il demande. Donc, voilà notre assurance que si le Seigneur Jésus intercède pour nous, donc notre salut est dans son intercession, comme le souverain sacrificateur. Alors, voilà ce que le Seigneur lui a donné comme pensée par son esprit, pour qu'elle se confie entièrement au Seigneur Jésus. Je ne peux pas imaginer se confier à un Jésus qui ne reçoit pas ce qu'il demande de son Père. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire ce message populaire que, voilà, le Seigneur Jésus est en train de prier pour tout le monde. Pourtant, tout le monde n'est pas sauvé. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible, comme Marc dit ici. Mais maintenant même, je sais. Voilà, la foi est une persuasion. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est la foi que le Seigneur me donne. Il m'a donné et il me donne. Que le salut est entre ses mains. Et ce n'est pas selon ma volonté, mais c'est selon la volonté de Dieu que Dieu accorde le salut à tous ceux que le Père lui a donné. Dans les psaumes, chapitre 2, dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple de cela. Lorsque c'est écrit ici, c'est le Père qui parle de son Fils. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et voilà, demande-moi. Donc c'est le Père qui dit ça à son fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. Nous savons que le Seigneur Jésus ne demande pas plus que ce que le Père lui donne et le Père ne lui donne pas plus que ce qu'il demande. Donc les deux sont unis en ce qui concerne la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi, dans le verset 23 de notre texte ici, dans Jean 11, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Donc, voilà un message d'espoir que la mort de Lazare n'était pas finale, que ton frère ressuscitera. À cela, Marthe a répondu, « Je sais, lui répondit Marthe, verset 24, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc elle avait cette croyance que oui, à la fin des temps, il y aura cette résurrection. Lorsque Christ reviendra et tous ceux qui sont morts en lui seront ressuscités, et vivront à jamais auprès de lui. Donc voilà où sa pensée allait. Jésus, dans le verset 25, dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc voilà d'où vient le titre de cette étude. Jésus, la résurrection et la vie. C'est important pour nous de comprendre que le Seigneur Jésus lui-même est la résurrection. Et il est lui-même la vie, comme il a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 6, quelques chapitres plus tard. Il dit, je suis le chemin. Il n'est pas venu simplement pour montrer le chemin, mais il est lui-même le chemin. Le chemin du salut. Il est le chemin de la réconciliation avec Dieu. Il est le chemin de la rédemption par son sang. Il est le chemin de la justification par son obéissance parfaite. Il est le chemin de la sanctification. Il est la sanctification. Ce que le Père lui a donné d'être sanctifié en lui depuis l'éternité, mis à part pour le salut. Et il s'était sanctifié en lui lorsqu'il est mort. Quand il est mort, ce que le Père a donné à son Fils était aussi mort avec lui, crucifié avec lui également. Donc, Christ est tout leur salut. Il est le chemin. Et il dit aussi dans le verset 6 de Jean 14, il est la vérité. Ce n'est pas qu'il est simplement venu enseigner la vérité, mais il est la vérité. Et ensuite il dit, et la vie. Il est la vie dans ce sens que c'est lui qui ordonne la vie pour ceux qui sont morts. Cela est vrai physiquement, mais aussi spirituellement. Et la révélation de Christ, c'est la vie que Dieu donne aux pécheurs qu'il représente. Alors, il y a beaucoup dans cette phrase, et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est important de voir la manière que c'est écrit ici, parce que Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Même dans ces deux mots, je suis, ça nous rappelle du mot Jéhovah. Lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller se présenter devant Israël, avant de les délivrer d'Égypte, et Moïse a demandé, mais si on me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois dire? Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur, je suis envoyé. Jéhovah, le verbe, c'est un verbe dans la langue hébreu qui signifie être. Il n'y a jamais un temps où Christ n'a pas existé. Bien vrai, il est venu dans la chair, il est devenu homme, mais il est la résurrection et la vie. Il est la vie de Dieu. Et celui qui dit Dieu dit le Seigneur Jésus. Celui qui dit le Seigneur Jésus dit Dieu. La vie est en lui. Donc c'est pour ça que nous pouvons savoir que personne ne peut espérer à la vie éternelle si ce n'est à travers le Seigneur Jésus. Donc il dit dans le verset 25, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça, c'est un enseignement très important, parce que le fait d'être un croyant ne signifie pas que nous n'allons pas mourir, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant que nous ne mourions. Mais c'est pour nous dire ici que même si quelqu'un meurt physiquement, le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en lui vivra. C'est-à-dire, cette vie, ce n'est pas simplement dans cette vie que nous avons l'espérance. Si tel était le cas, c'est comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Imaginons tout ce que nous avons renoncé dans cette vie que le monde poursuit. Mais à cause de la grâce de Dieu en nous, nous sommes attachés à Christ, séparés du monde. Mais si c'est seulement dans cette vie que nous avons cette existence et il n'y a pas réellement une vie éternelle de l'autre côté, donc nous sommes les plus misérables que tous. Nous ayons déprimé de tout ce que ce monde poursuit pour s'attacher à Christ, simplement pour qu'à la fin de cette vie, tout termine. Mais je suis confiant, selon la parole de Dieu, que la vie éternelle est une vie pour toujours. Et qu'une fois que ceux qui appartiennent à Christ meurent ici dans cette vie, la vie ne s'arrête pas là. C'est simplement une introduction, c'est une porte pour quitter ce monde que nous connaissons physiquement et entrer maintenant dans un monde spirituel dont même l'apôtre Paul disait que ce n'était pas permis d'exprimer ou de parler lorsqu'il a eu cette révélation du ciel qui est écrit dans l'épître aux Corinthiens. Alors, Christ rassure Marthe en disant « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il faut savoir que lorsque un croyant ferme les yeux de ce côté de la vie éternelle, que ce n'est pas la fin, nous voyons le cadavre, nous voyons le corps, mais l'âme continue à vivre auprès du Seigneur, si c'est quelqu'un qui, pour qui Christ est mort. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 26 de Jean 11, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Notez bien l'ordre là dans le verset 26, « Et quiconque vit » Ça ne signifie pas la vie physique, mais spirituellement. Parce que pour croire en Christ, il faut d'abord que Christ rend à la vie. Et cela est fait par son esprit. Quiconque vit et croit. Personne ne peut croire en Christ à qui Christ ne donne pas d'abord la vie spirituelle. Donc, c'est important de lire cela. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc avant de mourir, nous avons cette assurance que tous ceux pour qui Christ est venu dans le monde et qu'il a sauvé par sa mort, il fera en sorte qu'il vive d'abord et puis ainsi croire. Il donne son esprit pour qu'il puisse croire. Autrement, personne n'allait croire. Nous n'avons pas en nous-mêmes cette capacité de croire en Christ si lui-même, il ne nous donne pas d'abord cette vie. Donc nous pouvons, nous qui sommes déjà régénérés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons affirmer même la vérité d'une résurrection future de ce corps, parce que nous vivons déjà une résurrection spirituelle lorsque l'Esprit s'est manifesté en nous à travers l'Évangile et nous a donné la vie pour croire en Christ. Il nous a ouvert les yeux pour le contempler spirituellement. Christ lui-même a parlé de cela dans Jean chapitre 5. Et a fait cette comparaison entre les deux résurrections. Si quelqu'un me demandait pourquoi je crois à une résurrection future, je dirais tout d'abord c'est ce que la Bible enseigne, certainement. Deuxièmement, je dirais que nous voyons tout autour de nous des exemples. On a tous vu peut-être une saison sécheresse où tout est sec. Et les herbes, les arbres, tout est mort. Et on peut imaginer que ça ne pouvait jamais revivre. Mais alors vient maintenant la saison pluvieuse. Et lorsque la pluie commence à tomber, tout change. Ce qui était sec avant, maintenant, est rendu vivant. Et ça nous étonne peut-être que quelque chose qui semblait être complètement mort, non? C'est comme Christ a dit de Lazare, non, il dort. Et lorsque Dieu a envoyé maintenant la pluie, voilà, ça revient à la vie. C'est un exemple de la résurrection. Mais plus que cela, nous avons l'expérience en nous-mêmes si nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas peut-être expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la régénération, mais je sais en moi-même, c'est comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Nous avons ce témoignage de l'Esprit en nous si nous sommes enfants de Dieu, que nous étions morts et maintenant nous vivons spirituellement. Et cela représente pour nous ce qui sera la résurrection dans l'avenir. Mais ici, dans Jean chapitre 5, à partir de verset 24, nous voyons cela, comment le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie, non seulement physiquement, mais spirituellement, surtout. Ici, c'est écrit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, notez, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est important pour nous de considérer le sens de ce seul verset. Lorsqu'il dit en vérité, je vous le dis, qui parle ici si ce n'est celui qui est la résurrection et la vie? Mais notez, celui qui écoute ma parole, cette parole que nous sommes en train de lire maintenant, cette parole que le Seigneur Jésus a transmise à ses apôtres et qui sont maintenant préservées pour nous dans les Écritures, inspirées de lui. Et notez, celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. On ne peut pas croire à Dieu sans croire à son Fils. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des religions qui ne croient pas que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est l'égal avec Dieu. Ils veulent croire simplement que non, nous croyons en Dieu, seulement nous ne croyons pas à Christ. Impossible. Ici, Christ lui-même le dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'envoie, parce que le Seigneur Jésus n'est autre que la révélation de son Père dans la chair. Si nous voulons connaître Dieu, Christ lui-même a dit ça à ses disciples, si tu m'as vu, tu m'as vu, tu as vu mon Père. Les deux sont un. Voilà l'unité. La parole qui était au commencement était avec Dieu, et Jean dit, était Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans venir par le Seigneur Jésus-Christ et par la vie qu'il donne. Pourquoi? C'est pourquoi cette phrase ici dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, notez, ça ne dit pas aura la vie éternelle. Mais ça dit à la vie éternelle. À. C'est la raison pour laquelle quelqu'un écoute. Vous écoutez là, n'est pas simplement avec les oreilles physiques, mais spirituellement. Écoute sa parole et croit. Pourquoi est-ce que je crois aujourd'hui ce que je vous prêche? C'est parce que le Seigneur lui-même, par son esprit, m'a donné des oreilles pour entendre. Je n'étais pas né comme ça. Je suis né comme tout autre. Éloigné de la vie de Dieu, il fallait que Christ me réveille. Il fallait que Christ me ressuscite. Et ainsi, il me donne des oreilles pour entendre. Donc, la preuve que quelqu'un a la vie éternelle, c'est qu'il écoute la parole de Christ et qu'il croit à Dieu le Père qui l'a envoyé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et notez pour cela ne vient point en jugement. Notez aussi le temps de ce verbe, mais il est passé de la mort à la vie. Déjà, j'attends ma mort physique dans le futur. Je ne sais pas quel jour cela va être. C'est le Seigneur qui sait. Mais si je suis à Christ et un de ceux pour qui il est venu payer la dette, je peux dire avec assurance que je suis déjà passé de la mort à la vie. Non seulement lorsque Christ est mort et ma dette payée, que je suis passé de la mort à la vie, mais aussi dans la régénération spirituellement. Je suis mort, né, mais maintenant je vis, et cela à cause de la volonté souveraine de Dieu et de sa grâce envers un pécheur tel que je suis. Donc c'est pourquoi Christ dit dans le verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Faisons attention, parce qu'ici dans le verset 25, il ne s'agit pas comme Marx disait du Seigneur, oui, je sais que Lazare doit ressusciter dans l'avenir à la résurrection de ceux que Dieu a justifiés par Christ dans l'avenir. C'est à cela que Marthe pensait lorsqu'elle dit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais il y a une résurrection avant cela que Christ voulait démontrer aussi par la résurrection de Lazare. Pourquoi est-ce qu'il a laissé Lazare mourir d'abord avant de venir? C'est parce qu'il voulait démontrer, parce que si quelqu'un dit qu'il est la résurrection et la vie, il faut une preuve. Comment nous savons que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie? Lazare est un exemple. Lazare ne pouvait rien faire. Il était déjà mort. Mais voilà, nous allons voir la semaine prochaine quand il est venu s'approcher du cadavre de Lazare, mais il a appelé Lazare. Avec cet appel est venu maintenant le pouvoir de ressusciter, revenir à la vie. Et c'est un exemple de la résurrection spirituelle que tous ceux qui appartiennent à Christ expérimentent dans cette vie. Quel espoir je pouvais avoir d'une résurrection future, physique, à la fin des temps, au dernier jour, s'il n'y a pas cette assurance maintenant dans ma vie. Et voilà l'assurance dont Christ parle ici dans le verset 25. Il s'agit ici d'une résurrection spirituelle. Et la raison pour laquelle je dis ça, quand il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient, mais notez, et elle est déjà venue. Déjà venue. Où les morts, donc ici il s'agit des morts spirituels, ceux qui sont morts dans leur péché, entendront la voix du Fils de Dieu. Comment? À travers l'Évangile, à travers la prédication fidèle du Christ. Et ceux qui l'auront entendu, ceux à qui il donne des oreilles pour entendre, vivront. Donc, si nous sommes de ceux-là que le Père a choisi depuis l'éternité pour qui Christ est mort, nous savons que le moment viendra où chacun de ceux-là entendra la voix du Fils de Dieu et vivra. Mais ça serait au moment voulu par Dieu, à travers son Fils, le Saint Jésus-Christ, et cela ne dépend pas de nous, ni de nos prières, ni de nos efforts. Nous avons déjà vu ça dans Jean chapitre 1, concernant ceux qui l'ont reçu, la verset 12. C'est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est à cause du pouvoir donné. Si quelqu'un croit en son nom, c'est à cause de la parole, Christ, qui donne ce pouvoir. Et c'est écrit, lesquels sont nés, premièrement dans le verset 13, non du sang. Ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne qui va rendre un enfant alors enfant de Dieu, non. Non du sang. Mais c'est écrit aussi, ni de la volonté de la chair. Aujourd'hui, le message populaire dit que si tu veux être sauvé, alors il faut exercer ton libre arbitre. Non, ni de la volonté de la chair. Mais c'est écrit aussi, ni de la volonté de l'homme. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent, si nous jeûnons, si nous prions assez, alors des gens peuvent être convertis davantage. Non, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ce pouvoir réside avec Christ et sa volonté seule, et la vie est en lui. C'est lui qui donne la vie à qui il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux à qui il donne cette vie, ils vivront, comme il dit. Et verset 26 de Jean 5, tout cela explique ce que Christ est en train de dire à Marc. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il n'y a pas de différence. Nous parlons du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais les trois sont un, en harmonie parfaite, en ce qui concerne la vie des pécheurs. Nous ne voyons pas le Père en train de vouloir sauver les gens et le Fils venant essayer aussi lui-même en donnant sa vie. Et voilà l'Esprit maintenant qui parcourt pour essayer de gagner le plus grand nombre possible. Non. Tout ce que le Père veut, le Fils a accompli. Et c'est le Saint-Esprit qui l'applique en donnant la vie à ceux-là. Le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est Christ qui décide de sauver ou pas, selon la volonté de son Père. Et il dit, verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Et voilà, il change maintenant. Basé sur le fait qu'il a la vie en lui-même et qu'il donne cette vie spirituellement, mais l'heure vient, il dit dans le verset 28, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça, c'est la résurrection physique. Toujours parce que Christ est la résurrection et la vie. Et ceux qui auront fait le bien, dans le verset 29, qui sont ceux qui ont fait le bien? C'est ceux qui se sont confiés à ce Christ, basés sur cette vie qui leur a été donnée, que l'Esprit de Dieu a amené à Christ dans la repentance et la foi. Ceux qui ont fait le bien n'est pas en nous. C'est le don de Dieu, sa grâce. Mais ceux-là ressusciteront pour la vie. Et notez, il n'y a qu'une seule résurrection. Les gens aujourd'hui prêchent de manière qu'il y a des différentes résurrections dans l'avenir. Non. Ici, ceux qui auront fait le mal, qu'est-ce que c'est faire le mal? C'est de continuer à poursuivre une voie d'œuvre personnelle, imaginant par les œuvres qu'ils auront la faveur de Dieu. Ceux qui auront fait le mal, comme Caïn, qui a porté les meilleurs fruits de sa main, mais Dieu a jugé ça comme le mal, parce que ce n'était pas le sacrifice exigé, comme Abel, son frère, qui a porté un agneau immolé, représentant Christ. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront. Donc eux aussi, Christ est la résurrection pour eux, mais la différence c'est que ceux qui appartiennent à Christ seront changés. La corruption sera changée maintenant dans l'incorruption, la mortalité dans l'immortalité. Telle est la puissance de l'œuvre de Christ à leur égard, mais le reste ressusciteront et seront donnés de nouveau leur corps plein de péchés et seront toujours séparés de Dieu à l'enfer. C'est écrit, ils ressusciteront pour le jugement. Ils disent, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, revenons dans notre texte ici pour terminer dans Jean chapitre 11. Et lorsque Christ dit, et quiconque vit et croit, il nous faut cette vie d'abord ici, par son esprit, de pouvoir croire en lui, pour avoir cette assurance que nous ne mourrons jamais. Et lorsqu'il a demandé à Marthe, crois-tu cela? Voilà sa confession dans le verset 27, qui ressemble beaucoup à la confession de l'apôtre Pierre. Lorsque Christ a demandé, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et Pierre a dit, comme Marthe ici, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Le Christ, le oint de Dieu, celui que l'Ancien Testament annonçait. Elle n'aurait pas pu dire cela si ce n'était l'Esprit de Christ déjà en elle qui lui donnait cette confiance, cette foi. Et la même chose est vraie pour nous. Si nous croyons au Seigneur Jésus tel qu'il est, révélé ici dans cette parole, c'est parce que Christ est la parole et il est la résurrection et la vie. Et il donne cette vie à tous ceux qui lui appartiennent. Et ayant cette vie, il croit et il se repose en lui et son œuvre parfaite accomplie à notre égard. Alors que le Seigneur bénisse à sa seule gloire. Amen.